essayer de voir rapidement l'un et le multiple dans les différentes parties de la philosophie. Il reste maintenant à se poser la question: quelle est la relation entre l'un et l'être? On a vu l'un et le multiple. On l'a vu au point de vue expérimentation. On l'a vu au point de vue philosophie du vivant. Avant ça, on l'avait vu du côté de l'activité artistique, du côté de l'activité morale. Et donc maintenant, du point de vue de l'être. Et là, nous avons les deux grandes philosophies, là, qu'il ne faut jamais oublier, parce que ce sont quand même des colosses au point de vue philosophique. On n'a pas été beaucoup plus loin. Platon et Aristote. Platon considère que l'un est supérieur à l'être. Aristote considère que l'un est propriété de l'être. C'est gros, très gros, avec Platon et Aristote. À ce point de vue-là, c'est merveilleux, parce qu'on voit deux grandes philosophies. Vous savez, on n'a pas été beaucoup plus loin au point de vue philosophique que Platon et Aristote. On peut dire que tous les philosophes sont ou platoniciens ou aristotéliciens, avec des petites variantes, mais au fond, il y a là deux positions magistrales. Je crois que ça, c'est deux positions magistrales. Montrer l'un supérieur à l'être. C'est très étonnant, du reste. Hein. Mais on voit très bien comment on arrive à cette position-là. Et l'un, propriété de l'être. Il est propriété de l'être. Donc, tout être en tant qu'être est un. Et c'est l'un qui manifeste l'être. Il est propriété. Donc, il manifeste. Il y a quelque chose dans l'un qui est plus facile à comprendre que l'être. Réfléchissez bien. Parce que vous ne réfléchissez pas beaucoup sur l'être. Maintenant, j'espère que vous réfléchissez. Vous ne réfléchissez pas non plus beaucoup sur l'un, radicalement. Essayez de vous-même vous classer platonicien ou aristotélicien. Platonicien par la tendance affective. J'aime Platon. Mais la vérité plus que Platon. Cette parole d'Aristote qui est formidable. Hein, parce qu'aujourd'hui, puisque j'aime Platon, il est dans la vérité, puisque je l'aime. Tout ce que j'aime est dans la vérité. En disant ça, vous vous exaltez en étant mesure de la vérité. Mais au fond, c'est le raisonnement classique que vous voyez tout le temps. J'aime Platon, il est vrai. Mon amour ne me ment jamais. Mon amour me donne toujours ce flair extraordinaire de découvrir les choses. Comme un chien de chasse. J'aime Platon. Et tout en aimant Aristote, vous pouvez dire j'aime Platon. tu aimes la vérité plus que Platon. C'est la vérité que je cherche. Donc, il y a une question capitale. Quelle est la relation entre l'un et l'être ? On arrive à ça. Quelle est la relation entre le multiple et l'être ? Tant que je n'aurai pas résolu cette question-là, je reste à la porte. Alors, il y a un petit article. Hein. Je ne reviens pas souvent à saint Thomas, mais ici, je vous envoie à cet article de saint Thomas. L'un et l'être ne divisent, l'un et l'être non divisé, ens non divisum. Or, la division appartient à la multitude qui s'oppose à l'un. Il revient donc à celui qui considère l'un de considérer la négation ou la privation. C'est très intéressant de voir que c'est la négation qui vous conduit à l'un. Et ce n'est pas la négation qui vous conduit à l'être, qui vous conduit à l'être. L'être s'impose, ceci est. Tandis que quand vous dites ceci est un, vous vous dites ceci n'est pas divisé. Tiens, c'est la négation qui vous permet de décrire voilà. Entre l'être et l'un, il y a la négation. Ça, c'est très très intéressant. À essayer de comprendre ça. Parce que c'est là. Où vous voyez comment l'un naît dans votre esprit. Alors, vous n'avez que de simplement réfléchir, mais bien réfléchir sur le fait de dire ceci est un. Le langage traduit ma pensée. Le langage m'aide à objectiver ma pensée. Et ces deux affirmations sont très nettes. Ceci est un. Vous passez donc par l'être pour dire l'un. Vous ne passez pas par l'un pour dire l'être. Si vous réfléchissez sur ces deux affirmations, vous êtes bien obligé de dire que l'affirmation de l'un présuppose celle de l'être. Puisque si ça n'existe pas, ça n'a pas d'unité. Ceci est un. Alors, vous voyez, c'est très difficile si vous avez arrivé à dire que toute votre métaphysique est en contradiction avec votre pensée. C'est embêtant, ça. Alors, si votre métaphysique est en contradiction avec votre pensée, où est la vérité ? Est-ce qu'elle est dans votre pensée ou dans la réalité ? Êtes-vous avant l'être ou êtes-vous après l'être ? Tiens, je n'ai jamais posé cette question. C'est quand même intéressant de savoir ça. Faut-il faire passer avant la réalité ce que je pense? Est-ce que c'est moi qui mesure la réalité ou est-ce que c'est la réalité qui me mesure? Tiens. Si vous mesurez la réalité, votre voisin, il est ce que vous pensez. Tiens. C'est pas tout à fait comme ça, ça se passe. Ah, peut-être qu'en vivant avec lui, je suis assommant parce que tout ce qu'il dit en dehors de ma pensée, je lui dis c'est imbécile. Ça existe, ça. Et ça existe souvent dans le mariage au bout d'un certain temps. Et c'est terrible, ça. Parce que vous perdez l'objectivité et vous gagnez. C'est vrai, au point de vue subjectif, ce qui est premier, c'est l'un. Il a la déclaration de la subjectivité, là. C'est ce qu'il y a de plus connaturel à mon intelligence, l'un. Connaturel à mon intelligence qui se manifeste, qui manifeste l'être. Ah donc, l'un manifeste l'être. Il porte le drapeau. Tout être est un. Dans la mesure où il est un. Mais l'un vient après. L'un présuppose l'être. Alors ce passage de saint Thomas est très intéressant. C'est dans le commentaire métaphysique. Or, la négation, est double. Il y a, c'est saint Thomas, il y a une négation pure et simple par laquelle on dit « ceci n'est pas », attribué à cela, « hoc non est illi ». Et il y a une autre négation au niveau du genre ingénéré, par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. Donc c'est intéressant de regarder la négation comme aujourd'hui on est très fort pour la négation. Puisque on voudrait comprendre la négation avant l'affirmation. C'est ça la grande erreur moderne. C'est la grande erreur moderne, c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Et ceci se fait sans qu'ils s'en aperçoivent, parce que c'est admis par tout le monde. La négation est avant l'affirmation. Mais chercher depuis longtemps, au point de vue philosophique, en quoi consistait la modernité. Quand on vous dit ouvertement, vous n'êtes pas moderne. Mais en quoi? En quoi je ne suis pas moderne? Dites-moi. C'est parce qu'au fond, c'est parce que vous mettez l'affirmation avant la négation. Alors, j'aime mieux pas être moderne. Parce que je suis dans l'erreur. Il y a eu un moment dans la philosophie où la négation est passée avant l'affirmation. Alors ça a été dit très poliment. Parce qu'aujourd'hui, les philosophes sont polis. Avant, ils n'étaient pas polis, ils disaient la vérité. Tandis qu'aujourd'hui, la politesse est passée avant la vérité. Il faut s'adapter. Ah, tout le monde, il faut s'adapter. Vous ne vous adaptez pas. Mais non, je ne m'adapte pas, je cherche la vérité. Alors, vous voyez, c'est ça qui est extrêmement intéressant avec l'un. C'est que vous êtes obligé de dire que vous ne cherchez pas la vérité, mais vous cherchez l'adaptation. Alors, en cherchant en quoi était la modernité dans la philosophie, j'arrive à dire que c'est de mettre la négation avant l'affirmation. Je suis moderne si je mets la négation avant l'affirmation. Cherchez, il faut que vous-même vous trouviez ça. Mais on oppose toujours les modernes et les anciens. Vous êtes ancien, conservateur. Mais non, on n'est pas conservateur. Comment voulez-vous conserver l'être ? Ça ne se conserve pas, l'être. Ça ne se conserve pas, ça se découvre. Hein ? Alors, quelle différence y a-t-il entre conserver et découvrir ? Découvrir, vous êtes dans un état d'admiration. Je ne savais pas que dans le frigo, il y avait encore tant de fruits. Je découvre. Je ne savais pas que, depuis qu'on fait la philosophie, l'être est toujours le même. Tiens, pour Aristote, l'être est le même que pour moi. Alors, est-ce que vous êtes bien sûr ? Si vous mettez la négation avant, l'être devient votre produit. Alors évidemment, vous n'êtes pas Aristote. Oh, c'est bien évident. Aristote devrait devenir tout petit pour entrer dans votre chapeau. Il devrait nier ce qui pour lui était une évidence. Ceci est antérieur à ceci n'est pas. Puisque pouvoir dire ceci n'est pas, il faut savoir ce qui est. Ah tiens. Pour dire, je prends l'exemple de Sartre, hein, pour dire Pierre n'est pas au café, il faut savoir qui est Pierre. C'est pas en disant Pierre n'est pas dans le café que je vais connaître Pierre. S'il n'est pas au café, c'est Pierre, il n'est pas là. Vous voyez, c'est aussi simple. Mais aussi profond, hein. C'est aussi simple que ça, la modernité. C'est faire passer la négation avant l'affirmation. Et ça, vous voyez, la subjectivité, aujourd'hui, la subjectivité, on ne veut plus la philosophie. C'est un fait, on ne veut plus la philosophie. Pourquoi on ne veut plus la philosophie ? C'est que la philosophie est tout le temps là pour vous rappeler que vous devez chercher la vérité. Et chercher la vérité, c'est-à-dire vous adapter au réel, et non pas le réel qui doit s'adapter à vous. Vous voyez, le monde, en refusant cette priorité de l'être sur l'intelligence, tombe dans un subjectivisme tel qu'on ne pourra plus s'entendre. Chacun aura sa philosophie. La négation d'avant. Alors, je vous lis ce passage. Ce passage, il est capital. Hein. Alors, vous, c'est dans l'être, c'est vieux, c'est ancien. Je n'écrirai plus ça tout à fait comme ça. C'est sûr, mais les textes de saint Thomas sont toujours bons. C'est l'avantage, alors qu'ils sont toujours bons. Et on y revient tout le temps, et ce texte, il est capital. Or, la négation est double. C'est une constatation, ça. Il y a une négation pure et simple par laquelle on dit « ceci n'est pas » attribué à cela. « Hoc non est illi ». Et il y a une autre négation au niveau du genre ignorée par laquelle on ne nie pas quelque chose absolument, mais dans les limites d'un certain genre. Ainsi, aveugle ne s'applique pas de façon absolue, simplicitaire, à ce qui n'a pas la vue, mais à ce qui, dans le genre animal, possède par nature la capacité de voir. C'est sûr. Quand vous dites « il est aveugle », ça veut dire « il avait la capacité de voir et il ne voit pas ». Oui, la négation présuppose toujours l'affirmation. C'est ça que ça veut dire. La négation absolue présuppose toujours l'affirmation, qui n'est pas dite, mais elle est implicite. Dans toute discussion avec quelqu'un qui est dans la modernité absolue, c'est toujours comme ça. La négation est première. Alors on vient là-dessus. Alors on devrait lui poser la question. Mais pardon, monsieur, est-ce que pour vous, c'est plus simple de dire ceci n'est pas que de dire ceci est? Qu'est-ce qui est le plus simple pour vous? Dites-moi. Il n'osera pas répondre. Il n'osera pas répondre. Il est coincé. Il dit, ah, mais j'ai jamais pensé. Mais c'est ennuyeux. Vous n'avez jamais pensé à l'affirmation la plus simple, ceci est. Et ceci n'est pas. Et ceci est vous lie à l'être. Ah, tiens. Ceci n'est pas vous renvoie au sujet. Je suis maître de dire ceci n'est pas. Je m'exalte par ma négation. Et la négation devient première. Alors, un monde qui se construit sur la négation, c'est un monde qui nécessairement va vers la chute, le néant. Ça ne peut pas être autrement. Bon. De lui-même, il se condamne parce que l'être appelle Dieu. Or, Dieu est insupportable. Je ne peux pas. La négation n'appelle pas Dieu. Elle appelle le sujet. C'est moi qui dis. Et quand je nie, je suis maître. Quand j'affirme, ah, je suis dépendant. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant dans l'un multiple, de voir l'un par rapport à l'être. L'un touche l'être. Et il est évident, mais il est après l'être. On continue ce petit passage de saint Thomas. Ainsi, aveugle ne s'applique pas de façon absolue, simplicitaire, à ce qui n'a pas la vue, mais à ce qui, dans le genre animal, possède par nature la capacité de voir. La négation absolue peut se vérifier aussi bien du non dit du non-être qui est apte à supporter une affirmation, quod est natum aberre affirmationem, qu'à l'être qui normalement devrait avoir et qui n'a pas. Quod est natum aberre est en abête, car non-voyant peut se dire aussi bien de la chimère que de la pierre ou même de l'homme. C'est sûr. C'est très astucieux, ça. Mais la privation implique une certaine nature ou substance déterminée, dont est dite la privation. Car on ne peut pas dire aveugle tout ce qui ne voit pas, mais seulement ce qui, par nature, doit voir. Quod est natum habere visum. Et ainsi, puisque la négation qui est incluse dans la raison de l'un, est négation dans un sujet, sinon le non-ens pourrait être dit un, il est clair que l'un diffère absolument, simplicitaire, de la négation et se rapproche davantage de la nature et de la privation. Mais c'est très important de voir que l'un implique la négation. Et donc, la négation implique la connaissance d'un sujet capable d'avoir le contraire. Donc, elle n'est pas première. La négation n'est jamais première. Elle présuppose que vous aviez une idée. Vous aviez une idée derrière la tête. Alors, ceux qui vous jugent en mettant la négation avant l'être diront, mais si on leur demande, mais pourquoi vous niez ? Ils ne sauront pas. C'est présupposé. Ils sont eux-mêmes dépendants d'une hypothèse qu'ils ne voient plus. Alors, la négation devient première. Je crois que ce passage de saint Thomas est très important. C'est un passage qu'on doit méditer pour voir apparaître ce que c'est que l'un, ce qui n'est pas divisible, l'un, propriété de l'être. L'être, je ne dis pas que l'être c'est ce qui n'est pas divisible, l'être, il est. Donc en vous demandant, mais qu'est-ce que ça veut dire, affirmation, ceci est, mais ça veut dire ceci est. Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ceci est. Mais vous parlez quand même. Ah mais je n'ai jamais pensé à ce. Ah mais la philosophie vous fait penser à ce que vous n'avez jamais pensé. C'est le problème de la philosophie. Et vous faites de la philosophie actuellement, oubliant que vous êtes dépendant de tous ces philosophes qui sont avant vous. Et vous croyez que vous êtes original, mais pas du tout vous répétez ce qui était dit. Comme originalité. Alors, le premier qui a dit ça, quel est le premier qui a dit ça? La négation est première. Occam. Un théologien, et je comprends très bien comment un théologien dit ça, parce que en théologie, ce qui est premier, c'est la foi. La foi n'est pas négative. Hein. La foi, on adhère. Alors, la foi est donc première, l'affirmation est première. C'est vous. Il prenait conscience de la foi qui regarde Dieu. Et que je dis par rapport à Dieu, tout ce que je connais n'est pas Dieu. Donc la négation vient immédiatement après mon adhésion de foi. Mais si ma théologie se laïcise, alors la négation devient avant l'affirmation. Pour Dieu, la négation est avant l'affirmation. Mais attention, avant, par rapport à ce que je dis. Mais j'ai affirmé que Dieu existe. Et donc, l'affirmation est première. Je ne peux pas faire une théologie en disant la négation est première. Oui, je peux en faire une. J'arriverai à dire que le néant est avant l'être. Sartre. La liberté née du néant. Sartre est un exemple magnifique pour montrer comment la négation est première. Et Sartre commande toutes ses philosophies. Il les dit clairement. Et c'est très curieux. Affirmer que la négation est première vient d'un théologien qui n'est plus théologien, qui considère que sa conclusion est avant l'affirmation de foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez les théologiens. Ils considèrent que ce qu'ils disent est plus important que la foi. Dès que je considère que ce que je dis est plus important que la foi, je ne suis plus un théologien. Vous êtes simplement un rhéteur. Ce qui est le plus important en théologie, c'est l'affirmation de foi. Puisque tout repose sur cette affirmation de foi. Et l'affirmation de foi n'est pas négative. C'est la plus grande affirmation. Vous ne pouvez pas avoir une affirmation plus grande que celle-là. Vous voyez, ce petit jeu-là, et c'est très intéressant à voir ça. Vous voyez, en théologie, qu'est-ce qui est premier ? La foi. Qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligibilité ? La négation. D'où la théologie négative qui affirme Dieu n'est pas. Le premier article de saint Thomas dans la Somme, Dieu n'est pas composé, il est absolument simple. Donc le premier article de la Somme, c'est 5 négations successives. L'affirmation dernière, omnino simplex, tout à fait simple. Oui, c'est très intéressant à voir ça. Nous sommes des petits-fils de théologiens. Petits-fils de théologiens qui nient leur grand-père et qui veulent être libres par rapport à leur grand-père. Alors, le grand-père affirmait que la négation était très importante, je comprends. La négation me permet de dire qu'il n'y a pas d'autorité. C'est ce que je comprends qui est mon autorité. Alors, c'est ça qui est de si important dans cette philosophie de l'un. C'est que cette philosophie de l'un me fait comprendre comment je peux arriver à ce qu'on voit maintenant. La négation est première. L'un est premier. C'est l'un. Ce n'est pas la vérité qu'on cherche, puisque si on cherche la vérité, on cherche à comprendre ce qui est. Mais on s'intéresse au discours humain, à la logique du discours humain. Mais si le discours humain décolle complètement de la réalité, si le discours humain n'a plus aucune relation avec la vérité, avec la réalité, ça n'a aucun intérêt. Il est logique. Et logique, ça ne veut pas dire qu'il est vrai. Il y a des choses qui apparaissent absolument comme logiques, ça se tient. C'est en relation. Mais ça ne dit pas si c'est la vérité. Alors, vous voyez, comment l'un a été l'occasion du déraillement. C'est l'intérêt de savoir ça. C'était l'occasion du déraillement, c'est-à-dire du déraillement qui met le sujet avant l'objectivité de la réalité. Et tout est dans cette affirmation que saint Thomas reprend ici. Quand je dis qu'est-ce que c'est que l'un, ce qui n'est pas divisé, donc la négation, est présente dans l'affirmation de l'un. La négation est présente. Or, la négation, elle est le fruit de mon intelligence. C'est mon intelligence qui nie. La négation, elle n'est pas dans la réalité. Vous n'avez jamais rencontré la négation, monsieur la négation, ou madame, hein, c'est devant. La négation, elle est dans votre intelligence. Vous êtes premier dans la négation. Voyez, ah, ce désir d'être premier chef de file. La recherche de la sagesse, c'est découvrir ce qui est premier. La recherche de la science, ce n'est plus le désir de rechercher ce qui est premier, mais c'est de rechercher les relations nécessaires. C'est très bien, c'est très intéressant de chercher les relations nécessaires. Il y a une relation nécessaire entre la négation et l'un. Vous ne pouvez pas affirmer l'un sans la négation. Il y a une relation nécessaire. C'est très juste. Mais c'est jamais premier, la relation. La relation, elle est l'être le plus ténu. Ah! C'est pour ça que vous pouvez avoir une relation de raison, une négation de raison. Une relation de raison. L'intelligence est capable de créer la relation. Elle n'est pas capable de créer l'être, mais elle peut créer la relation. Donc, grâce à sa primauté de la relation, l'homme peut être premier. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui est très important pour nous. C'est que l'homme désire à tout prix être premier chef de file. Alors, découvrir Dieu, c'est très embêtant. Parce que là, je dois m'incliner. Il est le créateur. Alors, s'il est le créateur, ben, c'est bien lui qui est premier. Donc, je suis second. Et c'est ennuyeux d'être second, parce que je dois respecter le premier. Si je ne respecte le premier, le second n'existe pas. Et donc, je suis enchaîné au premier. Enchaîné au premier, c'est donc l'esclavage le plus terrible, l'esclavage de l'intelligence. Vous voyez, et tout ça est autour du problème de l'un et de l'être. Alors c'est sûr, c'est pas tellement raisonné, mais au point de départ, c'est très raisonné. Vous n'avez qu'à vous-même réfléchir sur la différence de dire « ceci est », « ceci n'est pas ». Quand vous dites « ceci est », vous acceptez d'être second. Quand vous dites « ceci n'est pas », vous demeurez premier. Or, l'orgueil intellectuel, c'est de demeurer premier. Même si c'est uniquement par rapport à l'être de raison. Par rapport à l'être de raison, je suis premier. Il n'y a pas d'être raison, il n'y a pas d'être raison en Dieu. Parce que Dieu connaît sans abstraction. L'être raison apparaît à cause de l'abstraction. Parce que c'est un monde que je construis et que je construis à partir de mon intelligence. C'est très important de comprendre que l'être de raison est nécessairement second, parce qu'il n'existe que dans mon intelligence. Il a un fondement dans la réalité, mais il n'existe formellement que dans mon intelligence. C'est la négation. La négation est le premier être de raison. Alors, vous voyez, quand tout un système philosophique repose sur la négation, il repose sur un être de raison. C'est pas fameux. Donc, il se détruira lui-même, forcément, avec le temps. Mais, et cet être de raison apparaît très vite. Il apparaît dans toutes les négations. C'est pour ça que l'enfant aime tellement de nier. À 4 ans, c'est l'âge de la négation. Il apparaît, il ne nie pas au début. Parce que l'enfant est intelligent, alors il ne nie pas au début. C'est la grande personne qui nie, en premier lieu. Parce qu'elle est moins intelligente. Et elle se considère comme étant supérieure. Alors, si elle se considère comme supérieure à tout ce qui est, évidemment, la négation manifeste ma grandeur. C'est capital, ça. Oui. Donc, il faut aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, où la négation est première, il faut démasquer cette priorité de la négation avant tout. Et dans tous les systèmes modernes, la négation est première. Donc, la subjectivité l'emporte sur l'objectivité. Et nous sommes dans un monde qui se construit à partir de la négation. Donc, à partir d'un être de raison. Et c'est au fond ce problème de l'un et du multiple qui me montre le mieux cela. L'un est donc rattaché à l'être comme la propriété de l'être. Si l'un est rattaché à l'être comme la propriété de l'être, c'est par l'un que je découvre l'être. Ah, ça c'est très important. nous avons tous une peine énorme de découvrir l'être au plan métaphysique. Tous. Parce que nous sommes des êtres où la sensation est première. La négation s'est traduite par des larmes. Les larmes, c'est la primauté de la négation, c'est pour ça qu'on les aime tellement. On aime de pleurer. Et quand on grandit, on ne pleure plus. On aime de pleurer. Parce qu'on affirme la primauté de la négation. Chaque fois que vous pleurez, vous n'y avez pas pensé. Mais vous arrivez à un âge où on ne pleure plus. On ne pleure plus. Pourquoi qu'on ne pleure plus? Alors que l'enfant, il pleure. Si vite. On a cassé ma poupée. Et l'enfant se met à pleurer. Si vous en dites, va casser votre poupée, c'est rien, on va en acheter une autre. Vous voyez, la relation, tout de suite. Vous vivez dans la relation. Le gosse, non, ma poupée, c'est tout. C'est ma poupée. Et on l'a cassée. Il y a un sérieux de l'enfant. L'enfant est métaphysicien. Hein. Parce que c'est quelque chose, la réalité. Et il a un sens du réel beaucoup plus fort que nous. Nous sommes tellement habitués à l'être de raison parce qu'on vit tout le temps avec lui par la parole. La parole, elle est contemporaine à nous. Elle a l'immense avantage. Avant que j'existe, ma parole n'existait pas. Donc ma parole est créatrice. Elle est créatrice de mon monde. De mon monde d'être de raison. L'être de raison est devenu premier. C'est la critique fondamentale. Et ça, vous le voyez par le problème de l'un et du multiple. L'un est propriété de l'être. Donc si l'un est propriété de l'être, je découvre l'un avant l'être. C'est très important d'avoir la porte, d'avoir les clés. Partout, je vais entrer en métaphysique. C'est par l'un. Puisque c'est la propriété qui me fait découvrir l'être. C'est donc le problème de l'un et du multiple, c'est le problème classique qui nous conduit à l'être.